France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Mylène Farmer, pour de vrai. Première partie, un mirage nommé Mylène. Au fur et à mesure que je me suis plongé dans la légende de Mylène Farmer, j'ai acquis une conviction à son sujet. En réalité, cette femme n'existe pas. Malgré ce que tout le monde croit, il n'y a pas de Mylène Farmer, cette chanteuse est un pur mirage. Bon, je me rends bien compte que c'est une affirmation qui peut paraître un peu étrange au premier abord, mais je fais le pari que vous serez vous aussi de cet avis quand vous aurez écouté cette mini-série.
Mylène Farmer pour de vrai. Une mini-série de Salle des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Nathalie Salle. Attachée de production Lily Cornaer.
D'abord, c'est sa voix qui n'est pas réelle. Elle n'a pas une voix totalement humaine. Si on pouvait attraper un ange par les ailes, le conduire dans un studio d'enregistrement, lui mettre un casque sur les oreilles et appuyer sur le bouton record, il ou elle aurait la voix de Mylène Farmer ou une voix qui s'en rapproche. Hasard ou coïncidence, vous noterez que cette voix n'a pas vraiment changé tout au long de ses longues années de carrière. Et pourtant, on sait bien que tout outil de travail finit par s'user, même un marteau, il faut le changer de temps en temps, alors imaginez une voix. Amalia Rodriguez avait la voix cassée à la fin de sa carrière. Quant à Céline Dion, il faut se souvenir qu'elle a dû arrêter de parler pendant plusieurs mois pour soigner ses cordes vocales qu'elle avait trop sollicitées. Alors comment se fait-il que Mylène Farmer ait conservé cette voix d'ange malgré toutes ces années de travail? Vous trouvez cela intriguant? Moi aussi. Surtout, si Mylène existait réellement, on la verrait à la télé, on l'entendrait à la radio, on la croiserait à la boulangerie. Or, moi et mes collègues qui travaillons à la maison de la radio, juste à côté de là où elle a vécu pendant très longtemps, nous qui sommes allés un nombre incalculable de fois à cette boulangerie au pied de son immeuble, nous aurions dû, selon toutes les lois de la probabilité, la voir s'y fournir en baguette, remercier la vendeuse à sa façon douce et presque inaudible, ou commander un pudding noir pour se rendre à un brunch gothique. Eh bien, figurez-vous que pas une fois je ne l'ai rencontrée dans cet endroit, vous m'entendez bien, pas une fois. Bon, je sais qu'elle a déménagé il y a quelque temps car ses chiens créaient des problèmes avec le voisinage, mais tout de même, statistiquement, c'est absolument improbable qu'on ne l'ait jamais vue de nos yeux, étant donné le nombre d'années durant lesquelles nous avons partagé les mêmes rues et les mêmes alentours. Ce n'est pas comme si elle passait inaperçue avec sa chevelure de feu, ses tenues provocantes, ses cravaches, ses épées, ses chevaux et tout le bazar. Non, si elle était une vraie personne, il n'y aurait pas tant de mystère autour d'elle. À mon avis, elle est plutôt une divinité bizarre. Elle ne vit pas vraiment sur Terre, mais évolue parmi les nuages, ou sur une planète inconnue, ou alors dans une faille du manteau terrestre, même s'il est possible qu'une porte secrète lui permette d'accéder vers cet univers, et que cette porte soit située dans la région parisienne, pourquoi pas près de la maison de la radio, après tout. Mais que Mylène Farmer existe en tant qu'être humain, cela me semble hautement improbable, comme le savent très bien toute la cohorte de ceux qui forment son peuple de croyants et la suivent comme une prêtresse, un guide et un gourou. D'ailleurs, nous avons retrouvé dans la salle des archives le témoignage d'un fidèle de son église.
Ce qui fait que Mylène est tellement importante, disons que c'est sa rareté en fait qui fait tout ça. Quoi. Elle est tellement rare, tellement mystérieuse que la moindre petite pièce sur elle se collectionne et coûte des milliers de cents. Quoi.
Alors quel genre de fan êtes-vous alors?
Moi je suis un fan en fait qui va principalement au concert. J'ai eu la chance d'être sur la vidéo du live 96 et puis également sur le Millennium Tour qui va sortir là en octobre.
On vous voit?
On me voit, de gros plans, oui. Ça reste un souvenir vraiment inoubliable et pour moi c'est beaucoup, cette vidéo vaut de l'or. Quoi. C'est vraiment un truc... Voilà, donc j'ai fait tous les concerts de Paris-Bercy, je suis allé une fois la voir à Orléans, je collectionne quelques pièces, mais évidemment comme ça coûte très très cher, je n'ai vraiment pas tout, je ne l'ai jamais approché, j'ai jamais eu d'autographe de sa part, mais maintenant c'est vrai que je ne la piste pas, quoi. Je ne suis pas à la suivre partout, à l'attendre devant son hôtel ou en bas de chez elle.
Mais vous n'êtes pas du genre à être devant sa porte et à voir ce qu'il se passe.
Non, ce qui me serait vraiment heureux, ce serait vraiment la rencontrer par hasard.
Vincent Thomy, vous êtes l'auteur du livre Mylène Farmer, prêtresse pop aux éditions Le Mot et le Reste. Est-ce que cette chanteuse, au fond, ce n'est pas une sorte de rêve, un fantasme davantage qu'une réalité palpable, selon vous?
En fait, ce qui est assez intéressant, et notamment quand on travaille sur Mylène Farmer,
notamment les archives évidemment, c'est que on constate que elle fait beaucoup parler d'elle pendant, on va dire, 5-6 premières années. Et les 30 années qui suivent, où justement elle sort un album de moins en moins, sauf, on va dire, les 10 dernières années, cours du disque oblige, elle devient pour nous cette espèce de représentation fantasmée que vous décriviez justement. Et alors, est-ce que j'ai envie de la rencontrer quand elle va chercher sa baguette le matin? Je sais pas, moi non plus. Après, je pense que non d'ailleurs. Après, je pense, et c'est ce qui fait partie du fantasme en tant qu'artiste, c'est que justement, elle a réussi cette manière de faire, d'utiliser les médias, de faire désirer les médias auprès d'elle. Et forcément, quand on fait désirer les médias, on fait désirer le public derrière.
C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que vous n'auriez pas envie de la rencontrer. C'est exactement ce que dit la personne aussi dans l'archive. Est-ce que c'est pas la preuve d'une assez grande maturité des fans de Mylène Farmer par rapport à la star qu'ils admirent?
Ah si, je pense. Alors après, il y a eu une période et disons que Mylène Farmer, par rapport à son public de manière générale, elle s'est coupée. À partir du moment où un fan est rentré, bon, un fan qui visiblement avait un petit déséquilibre mental et a voulu absolument la rencontrer et a tué une standardise dans sa maison de disques. Et à partir de là, je pense qu'elle s'est, alors, au-delà de d'une éventuelle timidité qu'elle a dans sa vie, il y a eu tout d'un coup cette remise en question de qu'est-ce qu'être une star et qu'est-ce qu'être une star par rapport à son public, quel modèle donner en fait. Et je pense que ça a été apprécié par tout le monde justement qu'elle encore plus disparaisse. Et c'est ce qui fait que ça la rend encore plus désirable en fait, et même d'une certaine manière humaine.
Pour vous, elle est un mirage ou elle est présente physiquement, pas physiquement,
c'est intéressant,
mais dans votre
vie. De mirage, c'est vraiment intéressant parce que elle est un mirage palpable. C'est-à-dire que vraiment, on sait qu'elle est là, qu'elle a sa carrière, ça fait plus de 40 ans. Elle a fait des super choses. Maintenant, c'est quelqu'un, je trouve, qu'on aura du mal à égaler. Après oui, c'est un mirage parce qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va revenir, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'elle va sortir, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est qu'une tournée, est-ce que c'est une résidence. Et je trouve ça justement intéressant de savoir qu'on peut la retrouver de manière intrinsèque, et la personne qui parlait dans l'archive disait justement des objets, parce qu'il y avait un vrai rapport à la collection en fait. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas maintenant, parce que les objets sont peut-être plus sobres, mais voilà, on sait qu'il y aura ces objets-là qui restent en fait, et je pense que c'est ça qui attache les gens. Après, la voir sur scène, c'est là que le mirage devient palpable en fait. C'est que tout d'un coup, un être humain sort ou descend, enfin, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver sur scène, comment elle arrive. Et c'est ce qui permet justement de créer ce côté icône en fait, et de mirage et d'icône en fait en même temps.
Si j'ai la conviction que Mylène n'existe pas réellement, je crois en revanche sincèrement à la présence dans la foule des humains d'une femme qu'elle nous a envoyée pour la représenter. Cette femme, ce messie en quelque sorte, s'incarne dans une personne timide et tout ce qu'il y a de plus normal, à part peut-être par le fait qu'elle semble ne pas pouvoir vieillir. Cette femme banale s'appelle Mylène Gauthier. Mylène Gauthier est née le 12 septembre 1961 à côté de Montréal. Son pseudonyme de Farmer ne viendra qu'une vingtaine d'années plus tard en référence à l'actrice Frances Farmer. Précisons que cette star hollywoodienne de l'entre-deux-guerres a connu un destin tragique puisqu'elle a été internée en hôpital psychiatrique. Électrochoc, humiliation et conditions de vie déplorables, Frances Farmer a vécu l'enfer, il semblerait même qu'elle ait été prostituée de force. Heureusement, quand la jeune Mylène Gauthier découvre le destin terrible de cette femme, elle est, elle, éloignée de ses tragédies. Troisième enfant d'une famille aimante, elle vit au Canada jusqu'à ses 8 ans, car son père, un ingénieur français, est venu travailler à la construction d'un barrage sur la rivière Manicouagan. Vincent Thomy, comment vous qualifieriez l'enfance de Mylène Gauthier au Canada ?
Elle est sereine. Elle est plutôt optimiste pour un départ de vie. Elle est multiple, puisqu'elle compte énormément sur ses frères et sœurs, qui ont une place encore aujourd'hui dans sa vie et dans sa carrière, notamment. Elle y reste pas longtemps, une dizaine d'années. Il y a un vrai déchirement, en fait, quand ils arrivent en France, enfin le peu du moins d'archives qu'on a ou d'informations qu'on a sur son début de vie. Et on sent que c'est une des premières étapes qui va créer justement une sorte de mélancolie palpable qui va rester tout au long de sa carrière, qui n'est pas évidemment la seule chose, mais on sent qu'il y a un rapport à l'enfance, qu'elle décrit notamment ce rapport, c'est des images comme des diapositives en fait qu'elle décrit dans certaines interviews, ce rapport à la neige, ce rapport au grand paysage, ce rapport au lien entre les gens. Je pense que c'est très important. On sent vraiment qu'il y a cette une création autour vraiment du lien, de ce qui unit les gens, l'amour de
la
manière
communauté.
Générale. La communauté, exactement.
Elle rentre en 1969 avec sa famille, et donc encore, en effet, une enfant ou presque. Et là, c'est à Ville d'Avray, dans l'ouest parisien, banlieue plutôt chic. Ça nous indique aussi quel est le milieu social de la famille Gauthier.
Oui, bien sûr. Bien sûr, et bizarrement, elle y est restée.
En tout cas, c'est une adolescente, vous le disiez, un peu tourmentée, moquée pour son accent québécois et qui vit assez mal, finalement, les années de collège et de lycée qui arrivent.
Tout à fait, ouais, comme je pense beaucoup de gens. Et ce que va permettre Boutonna, justement, ensuite, quand elle va le rencontrer et faire ses premiers clips, en fait, on sent que le rapport à l'enfance est encore, comme vous disiez, à l'adolescence, vraiment très marqué, très violent. Une peur entre justement une espèce de grand écart entre l'ennui et le jugement que peut avoir l'autre sur soi, bon, qui est vraiment quelque chose de l'adolescence de manière générale, mais qui va lui permettre d'écrire des chansons comme Plus Grandir quelques années plus tard, et qui justement pour moi est un point d'achoppement dans le début de sa carrière.
On écoute une des plus anciennes archives conservées à Radio France de la voix de Mylène Farmer dans l'émission Pollen avec Jean-Louis Foulquier et Didier Varro. C'était le 13 décembre 1985.
On se sent toujours impliqué dans ses propos, ce qui est un peu gênant. Oui, je fais des choses, j'ai l'impression de proposer des choses, je ne sais pas si on dit intelligente, en tout cas...
Bah, tu te proposes, toi, déjà.
Je me propose, moi, voilà, voilà. Et j'aime ce que je fais, mais...
Ce qu'on peut dire sur Mylène Farmer, c'est que de Maman a tort à Plus Grandir, on aurait pu nous faire le coup de la petite baby doll écervelée, bien gentille, bien excitante pour tous ces gros vilains machos, alors qu'en fait, ça, elle a peut-être des regards de baby doll, mais elle a aussi des petites blessures, des petites écorchures qu'elle livre comme ça. Ça, c'est quand même toujours un petit peu déchiré, tout ce que tu chantes. C'est pas si
Mais j'avais si pas envie de faire le plagiat de Maman a tort et de continuer dans ce registre. Je pense que ce que je propose depuis le début, je pense qu'il y a un fil conducteur, sans pour cela faire à chaque fois la même chanson, ni les mêmes textes.
T'as pas envie d'être fabriqué et tu te laisserais pas mener par le bout du nez.
Fabriqué, non, il n'en est pas question. Je travaille par contre d'arrache-pied et je suis très proche de deux personnes qui travaillent avec moi et pour moi.
Qui font équipe.
Oui. On va les nommer.
Et qui servent, voilà. Qui servent tes idées.
Et qui servent mes idées. Il y a Laurent Boutonna, qui est mon compositeur et producteur. Et puis Bertrand Lepage, qui me suit de partout et me conseille.
Vincent Thomy, un commentaire sur cette archive.
Elle passait sur le groupe Radio France, Mylène Farmer, au début de sa carrière. Il y a donc cette interview-là dans Pollen, et puis une sur France Inter en 89 aussi, qui est très intéressante. Elle disparaît un petit peu... pour le service public, je parle, à partir du moment où elle sort Désenchantée, où là, plus elle marche, plus elle cartonne, et moins, bizarrement, Radio France la passe. Il y a un petit retour de hype, on en parle un peu plus depuis 4-5 ans, parce que la nouvelle génération d'artistes la reprend, en fait. Et ça, c'est bien.
Mylène Gauthier quitte le lycée au tout premier jour de sa terminale. Elle s'installe seule à Paris et s'inscrit au cours Florent pour y apprendre le théâtre. Une parenthèse avant de poursuivre. C'est dans ces années-là que Mylène Gauthier invente Mylène Farmer, ce personnage qui n'existe pas vraiment, qui est une construction mentale, une protection peut-être, en tous les cas, un fantasme. Fin de la parenthèse, mais j'y reviendrai.
1. Maman a tort. 2. C'est beau l'amour. 3. L'infirmière pleure. 4. Je l'aime.
Par l'intermédiaire d'un ami commun, Jérôme Dahan, elle rencontre Laurent Boutonna, un fils de bonne famille qui a lui aussi quitté l'école à l'âge de 15 ans. Les deux garçons ont écrit une chanson qu'ils lui proposent d'interpréter. Ce sera « Maman a tort », premier disque de Farmer, qui joue déjà sur une atmosphère un peu morbide, puisqu'elle y interprète une petite fille dans le triste décor d'un hôpital. Nous avons retrouvé une archive, celle du 1er septembre 1986, où Mylène Farmer et Laurent Boutonna évoquent cette chanson. C'était au journal de 20h d'Antenne 2, mais sa timidité à elle fait qu'elle s'efface derrière son assurance à lui pour répondre aux questions de Noël Mamère. Une fois de plus, Farmer préfère le silence.
Laurent Boutonna, c'est la voix, le physique de Mylène Farmer qui vous avait séduit ou ce sont les deux à la fois ?
Oui, c'est les deux à la fois parce qu'on cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman a tort. C'était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage.
Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas ?
C'était pas tellement pervers, c'est plutôt psychotique, je dirais. Quelqu'un d'un peu
renfermé. Une forme d'ambiguïté, quoi.
Oui, très bizarre, mais ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter.
Alors vous lui avez écrit Libertine, qui est un véritable succès, qui a fait un tabac cet été.
Bah, c'est en train de faire un tabac. Mmh. Enfin, je suis ravi que ça marche. Oui.
Alors c'est un texte, c'est un texte qui est aussi un petit peu pervers ou un peu ambigu, comme on voudra.
C'est un texte qui n'est pas très simple, peut-être. Mais curieusement, c'est assez drôle d'ailleurs d'entendre. C'est curieux que ça marche. Enfin, je suis ravi que ça marche. Mais c'est drôle d'entendre dans la bouche des enfants chanter je suis libertine, je suis une catin. Mmh.
Ça doit vous amuser. Vous voulez bien rire dans votre manteau.
Je suis très très heureux.
Vincent Thomy sur cette archive.
Ben, elle est autrement plus intéressante parce que là, c'est une des premières fois où on les voit tous les deux, vraiment. Dans l'émission, il y a vraiment des plans très intéressants. Déjà, elle est devenue rousse, entre-temps, dans l'archive. Et ce que je trouve intéressant dans l'archive, bon, déjà, c'est de rentrer dans Noël Mamère comme journaliste aussi, ça c'est marrant. Et de savoir que c'est Mylène Farmer, c'est Laurent Boutonnat. Voilà.
C'est-à-dire que c'est lui qui parle.
Les 10 premières années de la carrière de Mylène Farmer, c'est Laurent Boutonnat. Évidemment, elle se construit à côté. Évidemment, c'est Mylène qui est sur scène. Mais Boutonnat est un génie. C'est quelqu'un qui, musicalement, avait de vraies idées. C'est un vrai musicien. C'est une personnalité que je pense qui est très sauvage aussi. Et c'est une des rares fois où on le voit et où on l'entend. Et je trouve que c'est intéressant dans cette archive, en tout cas, de voir comment il signifie sa création. C'est-à-dire que c'est pas que Mylène, c'est comment lui va incorporer son univers à travers un personnage qui va s'imprégner de l'univers, en fait.
Mais qui avait l'ascendant sur l'autre? Est-ce qu'elle a été inhibée par Laurent Boutonnat, comme on en a l'impression dans cette archive où elle parle très très peu, ou est-ce que au fond c'était plus égalitaire que ça, voire même l'ascendant était de son côté à elle?
Alors c'est difficile à cerner, je pense, à ce moment-là. Ça devient un peu plus intéressant au mi-temps des années 90, je dirais, quand il y a un changement à faire après l'échec de leur film commun qui est Giorgino. À ce moment-là, je pense que c'est plutôt Boutonnat qui a la main, parce que c'est lui qui connaît les gens, parce que la famille Boutonnat sont plusieurs personnes dans les médias, voilà. Hein. Et disons, c'est lui, voilà, qui fait passer un casting pour Maman a tort. Donc dès le départ, il a choisi la personne qui va vraiment interpréter ce personnage. Parce que Maman a tort est quand même une super chanson, mais il fallait vraiment trouver la voix et le physique pour le clip qui pouvait coller, et ce qui explique cet aspect psychotique, en fait, justement. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'égalité. C'est plutôt Boutonnat qui construit une carrière. Après, va arriver le deuxième album, qui est Ainsi soit je, où là, il y a des tubes. Parce que moi, Libertine, ça marche très bien, Tristana marche très bien, ce qui va suivre derrière. Mais quand arrive Sans contrefaçon, là, on sent que Mylène Farmer est là. Et là, ça va commencer vraiment à être une égalité parfaite.
Dès cette première chanson, il y a ce couple donc inséparable, Mylène Farmer, Laurent Boutonnat. Ça va être aussi un couple dans la vie. Et pourtant, Mylène Farmer continue depuis quelques années de travailler sans lui. Ça signifie qu'il y a eu une forme d'autonomisation.
Alors, il y en a eu même plusieurs, je dirais, avec Boutonnat. La première, c'est encore une fois l'échec de Giorgino. C'est le film de Boutonnat qui a poussé encore une fois le curseur trop loin dans Le Morbide. Et la première, pour moi, rupture, c'est à ce moment-là. Et là, elle fait déployer plutôt le côté solaire, en fait. C'est ce qui va donner, à mon sens, les meilleurs albums de sa carrière ensuite. Dans les 10 années qui suivent, pardon. Après, Boutonnat, il va continuer, donc il continue à la produire sur scène. C'est un vrai metteur en scène aussi. Mais tout doucement, on s'aperçoit que Mylène Farmer, elle est capable de composer toute seule. Alors évidemment, elle a appris Boutonnat, mais elle peut faire des morceaux elle-même. Et bon, elle écrit, donc voilà. Déjà, elle a ça qui est validé, on va dire définitivement. Elle produit ses disques, elle édite ses disques. Enfin, du coup, tout change en fait plus ou moins dans les années 90 et jusqu'à, pour moi, 2009, où là, on a une super tournée. Et là, c'est une tournée best-of qui est vraiment génialissime. Pour moi, c'est la meilleure qu'elle ait faite. Où d'un seul coup, elle devient universelle pour moi, pour le public. Et là, tout d'un coup, elle s'est séparée de Boutonnat. Ils vont continuer un peu à travailler ensuite, jusqu'en 2019. Mais tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle peut fonctionner toute seule. Et tant mieux, parce qu'elle va faire des albums plus ou moins inégaux. Mais les 10 dernières années sont dans les meilleures années qu'elle ait pu faire musicalement, je trouve aussi.
Alors, ils ont des références littéraires en commun, Baudelaire, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, des écrivains esthètes, ça c'est important, l'esthétique pour, et même l'esthétisme pour l'un comme pour l'autre, attirés par le mal.
En tout cas, peut-être au début. Enfin, ce qui est assez intéressant dans ces références littéraires, enfin, je le dis, moi, adolescent, elle m'a emmené sur plein de références que je connaissais de nom, mais qui m'ont permis de développer ensuite, qui m'ont fait du bien, notamment. Et est-ce que ça a tiré vers le mal? Oui, peut-être au début. Après, justement, on revient sur cette période où elle arrête le côté gothique, morbide, où elle passe un peu un truc plus solaire. Reste la mélancolie et le spleen. Alors, c'est totalement baudelairien, évidemment, mais ça va s'atténuer, et je pense que, justement, ce côté esthète permet l'atténuation sur la mélancolie.
Le mal et ses fleurs, les désirs et leurs répressions, le moi et le surmoi, Voilà quelques grands thèmes qui travaillent les textes de Mylène Farmer. Avec le succès qui vient, c'est comme si elle devenait la psychanalyste de toute une génération, et même de plusieurs, grâce à des paroles qui laissent à chacun suffisamment d'espace pour y insérer sa propre vie, ses propres doutes, ses angoisses. Les failles de Mylène Farmer semblent assez grandes pour y accueillir toutes les identités blessées.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, Antoine ? Parce que je sais que vous êtes psychologue, que vous utilisez les clips de Mylène Farmer dans votre milieu hospitalier, dans votre travail. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle ?
J'utilise principalement son univers et plutôt les clips dans l'enseignement que je donne, puisque je suis également prof de psychologie dans différentes écoles. Pourquoi ? Parce que dans les clips, elle monte ses clips comme elle monte des contes. C'est-à-dire qu'elle donne à voir un certain nombre de données universelles de la construction de chacun, de la construction psychologique de chacun, le rapport à la mère, au père, des données sur comment est-ce qu'on construit son identité, des choses qu'elle-même n'a pas forcément très bien vécues, qu'elle fait ressortir, comme dans toute production humaine, on fait ressortir ce que l'on est réellement. Mais comme elle garde le secret sur les raisons pour lesquelles elle utilise telle ou telle donnée, les raisons qui font qu'elle va utiliser tel symbole plutôt qu'un autre, ces symboles deviennent universels.
J'ai lu quelque part qu'elle n'a jamais écrit d'histoire d'amour. C'est toujours douloureux, c'est la souffrance, c'est l'abandon.
C'est l'une des caractéristiques. Il n'y a pas d'histoire d'amour chez elle. Au sens traditionnel, voilà, chez Mylène Farmer. Par contre, il y a énormément de variations autour de l'amour, mais dans l'angoisse de perdre l'autre, dans la peur de l'abandon, dans la souffrance d'avoir perdu l'autre aimé. C'est-à-dire, on a là, par exemple, une obsession quasiment abandonnique, la peur d'être abandonné, qui ramène au niveau psychologique à la peur d'être abandonné par sa mère.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit ce psychiatre dans cette archive de juillet 2000, Vincent Thomy ?
Alors c'est intéressant justement la date parce que non pas en désaccord, parce que oui, elle joue sur l'angoisse d'une relation qui peut se terminer, sur l'espérance même d'une certaine manière, est-ce que ça va marcher ou non, est-ce que ça va continuer ou non. Après, elle n'a pas fait que des chansons qui pour moi ne parlent que de rupture ou d'angoisse de l'autre en fait. Il y a des chansons plus lumineuses et qui arrivent plutôt après 2000 justement. Et notamment l'album Avant que l'ombre, où je trouve qu'il y a vraiment des titres d'espoir, en fait.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les chansons de Mylène Farmer sont comme des contes pour enfants ?
Alors, pour enfants, je ne sais pas, mais ça peut être des contes, oui. Parce qu'au départ, elle a une écriture qui est très écrite, justement, très littéraire. On en revient aux références dont on parlait précédemment. Et plus on avance dans sa carrière, après 2000, plus son écriture se fait impressionniste. Je trouve ça qu'on a des ressentis, on a des images, on a des sensations. Alors c'était déjà le cas avant, mais je trouve qu'elle est plus dans cet élan-là, et justement ça peut, je trouve, s'apparenter au conte.
Est-ce que dans cette idée de conte, il y a toujours le bien, le mal, les méchants, les bons ? Il n'y a pas ça un petit peu quand même aussi chez Mylène Farmer, cette vision parfois en noir et blanc ?
Il y a toujours un côté, il n'y a pas de gris, il y a rarement du gris. Encore une fois, ça se développe un tout petit peu les 20 dernières années, mais oui, il y a un côté, oui, je ne sais pas si c'est une morale, comme dans pas mal de contes, mais il y a un côté noir ou blanc, oui, évidemment.
Ce sont donc les gens qui ont posé des questions sur Minitel, vous l'avez vu, 3615, MP3, et je me fais leur porte-voix. Alors, une première question, on vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice, s'il vous plaît.
Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente.
C'est pas mal.
Parce que j'aime provoquer, que ce n'est pas mon seul but.
Non.
Mais c'est vrai que j'ai un goût pour la provocation, enfin, le goût des choses un peu choc.
Bah donc c'est réussi alors.
Merci.
Alors, es-tu mariée, nous demande Tom.
Non, je suis célibataire et je vis avec un capucin qui n'est pas un moine mais un petit singe.
Quelle drôle d'idée. Ça fait quelle taille ça ?
Ce capucin est grand comme ça, une très longue queue et à peu près le ton de vos chaussures.
Ah, je vous remercie. Mais quand elles sont cirées plutôt.
Qui ne sont pas cirées d'ailleurs.
Voilà, donc c'est ce ton-là.
Vincent Thomy, est-ce que vous trouvez que Mylène Farmer est provocatrice, comme un petit peu dans cet archive de 1987, et en même temps timide ? Il y a toujours ces deux choses à la fois.
Moi, ce que je trouve très fort de sa part au niveau médiatique notamment, c'est qu'elle utilise à dessein, et elle le fait très bien, les médias pour être provocatrice, justement. Et c'est intéressant, parce que 87, il y a plein d'émissions, il y a Sexifolie, plein de choses comme ça intéressantes, où on parle notamment de sujets intimes, et où elle va pousser, ou Nulle part ailleurs aussi, ou les émissions de Deniso sur Canal, où on peut se permettre aussi de dire ça. Et dès le départ, on va comprendre justement cette dichotomie entre elle est très timide, et en même temps, elle peut se permettre toutes les audaces qui soient.
Mylène Farmer a organisé très tôt sa disparition de l'espace médiatique. Pour cette raison, il y a vraiment très peu d'archives dans lesquelles on entend s'exprimer longuement. Si elle accepte parfois de se plier à l'exercice de l'interview, on sent qu'elle doit toujours se faire violence. Par le passé, certains ont cherché à l'appâter avec une victoire de la musique, mais elle ne s'est pas laissée prendre à une tactique aussi grossière.
Qui est l'artiste féminine de ces 20 dernières années ?
C'est à la fois l'Académie et le public qui a choisi...
Mylène Farmer.
Mylène Farmer, victoire féminine des 20 ans. Mylène Farmer qui est apparue voilà. En fait dans le paysage musical en 1984, il y a 21 ans exactement, avec Maman a tort. Elle n'est pas là ce soir. Mylène Farmer qui a un fan club très actif et un nouveau titre qui sort dans quelques jours et qui s'intitule Fuck Them All et qui est paraît-il chanté par des enfants, une chorale, comme quoi ça revient à la mode.
Voilà, puisqu'elle a été désignée par la profession et par le public comme l'artiste de ces 20 dernières années, ça nous ferait plaisir qu'elle vienne. Mylène Farmer, merci pour elle.
Fuck Them All, c'est un peu ce qu'on lui a reproché d'avoir signifié aux Victoires de la Musique en ne venant pas recevoir sa récompense, Vincent Thomy.
Alors, cette archive, elle est super, parce que je suis devant la télé quand je vois ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la victoire des 20 ans, des Victoires de la Musique, pardon, mais on ne parle pas de la victoire masculine qui est Jean-Jacques Goldman, qui est inexistant dans les médias, et en lui, on ne dit rien.
Il n'est pas venu non plus ce soir-là.
Et il n'est pas venu non plus ce soir-là, voilà, comme il le fait de manière générale. Et oui, c'est un super pied de nez parce que ce qu'elle signifie là, on revient 20 ans en arrière quand elle a eu sa victoire de meilleur artiste en 88 ou 89. C'est Souchon qui lui remet et clairement, elle n'a absolument pas apprécié les coulisses en fait. Enfin, moi, c'est ce qu'elle dit.
Ce qui s'est passé dans les coulisses.
Voilà, une sorte d'hypocrisie ambiante dans le milieu musical français qui fait qu'elle ne veut plus participer à ça. Et d'ailleurs, elle a demandé volontairement à être retirée des nominations en fait. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Au moins là-dessus, on aime ou on n'aime pas Mylène Farmer, mais on peut lui reconnaître une intégrité là-dessus. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle ne le fait pas et elle le fera pas, clairement.
Mylène Farmer n'existe pas, j'en suis de plus en plus sûr. Seule existe l'actrice, chanteuse et performeuse Mylène Gauthier qui a créé un personnage dont les fans sont tombés amoureux. D'ailleurs, eux-mêmes savent bien qu'elle n'existe pas. S'ils ne cherchent pas à approcher la star, c'est par peur qu'elle ne disparaisse au moment même où ils pourraient la toucher. Farmer ne se mêle pas du monde réel. Elle ne poste pas sans cesse ce qui lui passe par la tête sur les réseaux sociaux. Elle ne donne pas son avis. C'est pour ça que ses fans continuent de l'aimer. Ils ne peuvent pas être déçus par ses prises de position, car de fait, elle n'en prend pas. Dans le fond, sa timidité lui a évité de s'exposer réellement et de s'incarner dans le réel. De cette façon, elle a évité que son œuvre ne soit sans cesse interprétée en rapport avec ses prises de position. C'est comme cela que l'on fabrique des légendes, et Mylène Farmer en est une. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord sur le fait qu'elle ne prend pas forcément position, mais je trouve ça intéressant que parfois, notamment dans le monde actuel, qui est nébuleux, c'est pas forcément désagréable. Après, oui, dans la construction d'une légende, oui, bah, quelqu'un qui est neutre, forcément, bah, elle ne dit rien, donc on l'admire d'autant plus parce qu'elle ne dit rien. Et elle apparaît, et du coup, on attend que ce qu'on veut d'elle, en fait.
Laisser la place à la fiction, s'évaporer dans l'infini, lui a également permis de voler par-delà les frontières et de conquérir d'autres imaginaires. C'est ce qui s'est passé notamment avec la Russie, où s'est formée une grande communauté de ses fans dans les années 2000, moment où ce pays a aussi connu la décennie la plus démocratique de son histoire. Pour ses nombreux adorateurs, pouvoir se rendre à ses concerts est alors devenu le signe d'une plus grande ouverture de la Russie sur le monde occidental. Mais que nous dit ce moment de la vie et de la carrière de Mylène Farmer, pour elle comme pour ses fans en Russie ? C'est ce que nous allons voir au cours de notre second épisode.